nous entamons tout de suite la communication qui, aujourd'hui, nous vaut le plaisir et l'honneur d'accueillir Camille Grand. Camille Grand est incontestablement un des meilleurs spécialistes des questions politico-stratégiques et de défense. Diplômé de Sciences Po Paris, titulaire d'un DESS en défense et d'un DEA de relations internationales, Camille a été sous-directeur des questions multilatérales et du désarmement au Quai d'Orsay, responsable du désarmement à l'OSCE et au Conseil de l'Europe, conseiller diplomatique adjoint de la ministre de la Défense Michèle Alliot-Marie, chercheur associé à l'IFRI, professeur à Sciences Po, à l'ENA et à Saint-Cyr Coët-Quidan, directeur de la Fondation pour la recherche stratégique de 2008 à 2016. Il est alors nommé secrétaire général adjoint de l'OTAN pour l'investissement de défense, poste essentiel qu'il occupera de 2016 à 2022. À cette date, il devient l'un des principaux responsables du Conseil européen des relations internationales, ICFR. Enfin, depuis septembre 2025, il est le secrétaire général de l'Association des industries aérospatiales de sécurité et de défense d'Europe, ASD. On ne pouvait avoir de meilleur spécialiste pour traiter le thème de notre séance, l'impact de la présidence de Donald Trump sur le continent européen dans le domaine militaire, la Russie, l'Ukraine et l'avenir de l'OTAN. Chère Camille, à toi la parole.
Monsieur le Président, cher Jean-David, Monsieur le Vice-Président, cher Haïm Korsia, Monsieur le Secrétaire perpétuel, cher Bernard Stiern, Mesdames et Messieurs les académiciennes et les académiciens, Mesdames et Messieurs, je suis évidemment très honoré de participer à cette série de conférences consacrées aux transformations du monde et de l'ordre international et de rejoindre en toute humilité une belle liste d'intervenants qui sont souvent des amis ou des collègues de longue date, parfois beaucoup plus expérimentés que moi, pour partager leurs expériences et leurs analyses. Je crois que le thème que vous avez choisi pour les travaux de cette année est particulièrement important et approprié, et je suis en effet persuadé que nous traversons une période de véritable révolution dans les affaires stratégiques, bousculant nombre de piliers de l'ordre mondial et européen. C'est la raison pour laquelle je suis vraiment heureux de partager ces réflexions avec vous aujourd'hui, d'autant plus que je retrouve dans votre académie un certain nombre de mes maîtres et professeurs, ce qui rend cet exercice d'autant plus périlleux. Alors, l'ordre de sécurité européen issu de la guerre froide, et même, on pourrait dire, de la fin de la guerre froide, et même, on pourrait dire, de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe d'Helsinki, n'est plus depuis l'invasion russe de l'Ukraine. La garantie de sécurité américaine, pilier central de la sécurité du continent européen depuis 1949, semble s'effacer pour une relation au mieux transactionnelle dont la forme et les modalités futures restent à définir. Les Européens, entre sidération et résignation, doivent envisager de se défendre avec moins d'États-Unis, voire sans l'Amérique, et redécouvrent la brutalité des rapports de force militaires et stratégiques, payant ainsi le coût de décennies de sous-investissements dans leur défense. Donc, dans ce contexte-là, je voudrais aujourd'hui vous présenter quelques hypothèses pour nourrir notre discussion. La première est l'hypothèse du retour de l'hypothèse de la guerre majeure en Europe, à travers évidemment une lecture du conflit ukrainien, mais aussi des risques de conflit qui nous accompagnent. Je me pencherai ensuite sur les conséquences de la présidence de Donald Trump et la fin de la République impériale américaine et ce que ça emporte pour notre sécurité. J'irai ensuite m'interroger sur à quoi pourrait ressembler l'Alliance Atlantique sans l'Amérique et ce que pourrait être une OTAN 3.0, dirait-on aujourd'hui, une OTAN qui serait une OTAN très différente de celle que nous avons connue jusqu'à aujourd'hui, avant enfin de regarder à travers une lecture plus militaire les termes de ce que pourrait être une défense du continent européen dans ce contexte transformé. Donc d'abord, le retour de la guerre comme hypothèse en Europe. L'Europe, c'était, vous en souvenez tous, employé à oublier la guerre comme horizon des relations internationales, au moins sur notre continent. La stratégie européenne de sécurité de 2003 affirmait ainsi, je cite, « L'Europe n'a jamais été aussi prospère, aussi sûre, ni aussi libre. La violence de la première moitié du XXe siècle a cédé la place à une période de paix et de stabilité sans précédent dans l'histoire européenne. » En l'espace d'un quart de siècle, et rétrospectivement, cette affirmation semble presque aussi farfelue que l'affirmation de l'économiste Norman Angels, qui estimait en 1910 la guerre devenue impossible du fait de l'interdépendance commerciale et financière entre les grandes puissances. À l'argument économique, un chercheur américain, John Mueller, ajoutait en 1989 l'hypothèse d'une obsolescence culturelle de la guerre comme moyen de résolution des conflits. C'est vous dire que nous vivions dans un monde marqué par deux thématiques évidemment très importantes, l'idée de la paix par le droit, d'une part, et l'idée de la paix par le commerce, d'autre part. Paix par le droit, en Europe, marquée par la création de la CSCE, de la Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe, puis de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui, toutes deux, reposaient sur des principes édictés pendant la guerre froide elle-même, dès 1975, estimant que nous ne devions renoncer à la transformation des frontières par la force, que nous devions rechercher les voies et moyens d'une coopération économique, politique, reposant sur des principes partagés. Cette hypothèse de la CSCE est celle qui a en quelque sorte dominé la construction de l'après-guerre froide, avec l'idée d'un continent réunifié et d'un continent partageant des valeurs, des principes, et cherchant, au-delà des différends, à gommer les difficultés qui pouvaient apparaître entre les membres du continent européen, OSCE, auxquels participaient par ailleurs Américains, États-Unis et Canadiens. Donc on était dans un schéma de ce type qui pouvait évidemment être au cœur du projet européen, du projet d'Union européenne, où on retrouvait cette même logique de paix par le droit, par les institutions, d'apaisement des relations entre les membres de l'Union européenne, mais également avec le voisinage de l'Union européenne. Toujours en 2003, l'Union européenne affirmait être entourée d'un anneau de paix et de, en quelque sorte, propager la paix dans son voisinage. On voit aujourd'hui à quel point cette affirmation est sujette à caution. Donc on était dans cette première hypothèse quasi kantienne de la paix par le droit, et d'une sorte de paix perpétuelle émergente dans laquelle les Européens se trouvaient de manière très confortable. S'ajoutait à ça, évidemment, l'idée de la paix par le commerce et de l'intégration économique du continent. Évidemment, dans la construction européenne, je n'ai pas besoin ici d'en rappeler les fondements, mais aussi dans l'intégration du continent, y compris l'intégration de la Russie, où finalement, notamment l'Allemagne, mais pas seulement l'Allemagne, avait fait le pari d'une intégration par l'économie, par le commerce, avec la Fédération de Russie sortie de l'Union soviétique, mais en fait d'un projet qui remontait à l'époque soviétique en disant, au fond, en embrassant et en investissant dans cet espace soviétique, on allait créer la paix pour notre continent, une paix tout à fait qui allait en quelque sorte par le commerce, par les échanges, créer les conditions de nouveau d'une forme de paix perpétuelle pour notre continent. Et tout ça a permis aux Européens d'imaginer que la guerre, que la violence armée était en quelque sorte devenue obsolète, qu'on pouvait faire abstraction de tout ça Comme l'a dit le président de la République, mais reprenant une formule de Gideon Rachman, un éditorialiste du Financial Times, finalement, nous vivions heureux, tels des herbivores, dans un monde de carnivores. Et cette hypothèse-là était finalement celle qui a dominé les 30 années qui font suite à la chute du mur de Berlin, avec des Européens qui se réjouissaient de vivre les dividendes de la paix, comme l'avait indiqué un ancien Premier ministre, et de pouvoir se faire, de profiter d'une période de paix sans beaucoup de précédents dans l'histoire, en tout cas en Europe. Et cette situation assez unique permettait même d'imaginer, et on a en quelque sorte, dans ce moment-là, inventer toutes sortes d'images pour parler des conflits résiduels. On parlait de gestion de crise, de maintien de la paix. Donc ça n'empêchait pas nos forces armées d'être engagées dans des conflits parfois violents et difficiles, mais toujours dans une logique de rétablissement de la paix et pas de conflits majeurs nous opposant à tout ça. C'est allé très loin. John Muller, que je citais tout à l'heure, avait écrit un long ouvrage en 1989 pour dire que la guerre était obsolète et que la guerre entre les nations était en voie de devenir obsolète comme moyen de résolution des conflits entre les États, que le duel comme moyen de résolution des conflits entre les individus. Donc avec cette hypothèse qu'on allait vers une sorte de monde différent. Et dans ce contexte-là, l'Europe se plaçait à l'avant-garde de ce mouvement de marginalisation de la guerre comme outil de résolution des conflits. Et de manière intéressante, c'est le moment qu'a choisi le président Poutine pour estimer que cette posture relevait davantage de la faiblesse que d'une main tendue et permettait de créer en quelque sorte des opportunités. Il l'a exprimé de manière très claire et brutale dans un discours resté connu à la conférence de Munich en 2007, où il a formulé en quelque sorte les multiples griefs qu'il avait à l'égard de l'ordre émergent de l'après-guerre froide, pour dire qu'au fond tout ceci ne lui convenait pas, allait contre les intérêts de sécurité de la Russie, et il a en quelque sorte formulé, il y a maintenant presque 20 ans, l'agenda qui allait être celui de la Fédération de Russie dans les 20 années qui ont suivi. Et avec un recours progressif, et je pense que dans cette progressivité, il y avait la volonté de tester la réaction des Occidentaux, aussi bien américains qu'européens, à cette évolution, avec la volonté, au moins dans un premier temps, de restaurer l'influence russe dans l'espace post-soviétique, avec la guerre de Géorgie en 2008, premier épisode important, et à l'époque passé un petit peu, nous en parlions avec le président tout à l'heure, passé un petit peu sous silence parce qu'il y avait toutes sortes d'ambiguïtés autour du sort de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud, mais avec l'idée qu'on avait pour la première fois ce qui n'était pas exactement une modification des frontières, puisque ces deux territoires n'ont pas été annexés, mais en tout cas la reprise de contrôle de territoires contestés, en quelque sorte, dans l'espace post-soviétique. Cette tendance s'est aggravée, on peut dire, à la fois par les ingérences dans la vie politique des pays de l'espace ex-soviétique, mais aussi par une intervention très direct en Ukraine en 2014, où là encore on s'est employé à lire cette intervention à travers le prisme de l'histoire particulière de la Crimée, dont on pourrait parler. Une de vos collègues académiciennes m'avait raconté mes archéologues avaient raconté les efforts de Catherine II au moment de la conquête de la Crimée pour en quelque sorte chercher immédiatement des vestiges archéologiques visant à attester de la russité d'un territoire qui n'avait rien de russe en y cherchant des traces byzantines permettant de reconstituer donc c'est une histoire longue que l'histoire de la Russie et de la Crimée. Mais en 2014, on a de nouveau voulu lire cette annexion illégale à travers le prisme d'une histoire faisant de la Crimée une exception dans les relations entre l'Ukraine et la Russie. Exception relative, la Crimée avait voté pour l'indépendance de l'Ukraine comme tous les autres oblasts de l'Ukraine, mais exception tout de même compte tenu de la présence historique, au moins donc bicentenaire, de la Russie à Sébastopol en particulier. Donc, ça c'est la période qui va jusqu'en 2022. Mais en 2022, nous assistons avec l'intervention à grande échelle en Ukraine à un changement encore plus radical et qui là remet la question de la guerre au cœur de nos réflexions européennes. Avec une intervention d'une ampleur sans précédent depuis 1945, avec comme but affiché de changer le régime à Kiev et de conquérir des territoires jugés russes par Vladimir Poutine. Donc c'est bien, pour la première fois, une volonté très explicite de redessiner les frontières européennes, non pas dans des logiques de partition comme celles qu'on avait pu observer dans l'ex-Yougoslavie ou même à la limite dans le cadre de l'Ossétie et de l'Abkhazie, mais dans une logique de conquête territoriale tout à fait assumée. Ce conflit, pour moi, se caractérise, et je sais que vous avez reçu Gaël Vessière et Pierre Lévy, donc je ne vais pas m'arrêter trop longtemps sur les réflexions russes ou ukrainiennes, mais je voudrais passer quelques instants sur la question militaire, parce que je crois qu'il faut prendre conscience de l'ampleur de ce conflit là-dessus. D'abord, la première chose, c'est l'extrême violence du conflit. Je crois qu'on a oublier ce qu'est un conflit de cette ampleur quand on est européen. Les pertes sur le front sont estimées à environ 1,2 million de Russes, dont 300 à 500 000 tués, et à environ 600 000 Ukrainiens, dont 100 à 140 000 tués sur le front en 4 années de conflit. On est sur quelque chose qui, dans son ampleur, ressemble aux pertes quotidiennes qu'on pouvait connaître pendant la Première Guerre mondiale en France, à beaucoup de moments du conflit. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait frappant et qui n'a rien à voir avec les chiffres des conflits périphériques, même ceux menés par la Russie en Afghanistan ou ailleurs. Je ne devrais pas oublier de mentionner les pertes civiles, qui sont de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers, les questions liées à l'impact sur les populations avec des millions de déplacés en Ukraine et au-delà des frontières ukrainiennes, et les questions liées à la population ukrainienne sous occupation russe, qui fait l'objet de différentes mesures de russification, notamment à l'égard des enfants. Deuxième point qui marque sur l'ampleur de cette guerre, l'ampleur des moyens déployés. On a vu beaucoup de conflits et on est dans un... Pour les experts militaires, on peut constater des volumes de forces de missiles tirés, de drones tirés, de chars engagés, et qui sont tout à fait comparables à des choses qu'on a pu voir là aussi dans le second conflit mondial, avec un front qui s'est progressivement figé, mais qui a vu au départ l'usage de moyens blindés très importants, puis une forme de guerre de tranchées rappelant la Première Guerre mondiale avec un usage massif de l'artillerie, des dizaines de milliers d'obus tirés chaque jour sur toute la ligne de front, et tout ça avec des technologies du XXIe siècle venues se superposer à ce... Donc une situation qui rappelle à bains égards la Première Guerre mondiale avec l'ajout de technologies plus modernes. Et c'est le troisième point qui est l'innovation technologique, avec la présence des drones et de l'intelligence artificielle qui rendent le champ de bataille assez largement transparent, ce qui est une transformation assez fondamentale. J'ai le souvenir d'un président du comité militaire de l'OTAN qui me disait « Mon jeune ami, les 200 derniers mètres n'ont pas changé depuis la bataille de Waterloo. Je crains qu'ils aient changé depuis 2022. » C'est-à-dire que la transparence du champ de bataille fait que le soldat se trouve aujourd'hui dans un espace où où il y a ce que les experts du conflit appellent la zone de mort, la kill zone, dans laquelle il est pratiquement impossible de bouger sans prendre le risque d'être ciblé par un drone ou un moyen d'artillerie. Enfin, dernier élément de ce conflit qu'il ne faut pas sous-estimer, la présence de la menace nucléaire. Elle est relative dans la mesure où l'arme nucléaire n'a évidemment pas été employée, mais elle a été à différents moments du conflit fortement présente. D'une part parce que les autorités russes ont jugé utile le Stiftungswissenschaft und Politik en Allemagne tenait un compte précis des menaces nucléaires russes depuis le début du conflit. La dernière fois que j'ai vérifié, on était à 260 menaces explicites d'emploi de l'arme nucléaire, ce qui évidemment tend à démonétiser un peu ces menaces, mais malgré tout, on est dans quelque chose où on a un sujet nucléaire avec une Russie qui mène ses opérations à l'ombre, on peut dire, de sa dissuasion nucléaire, en disant au fond aux Occidentaux, vous ne pouvez pas intervenir pour soutenir les Ukrainiens sur le terrain, car je suis une puissance nucléaire. Et ça a expliqué beaucoup de prudence, d'ailleurs, j'étais à l'OTAN à l'époque, sur l'assistance accordée à l'Ukraine. On s'est donné énormément de mal pour expliquer que l'OTAN n'était pas engagée, que l'assistance est arrivée au compte-gouttes. Alors, comme on dirait avec l'expression anglaise, tout ça a permis de faire bouillir la grenouille. C'est-à-dire que l'assistance à l'Ukraine montant progressivement, il devenait de plus en plus, j'ai envie de dire presque ridicule, de dire « si vous franchissez cette étape, je me fâcherais vraiment ». Donc là, il y a un débat intéressant. Mais il y a un épisode maintenant assez bien documenté pendant l'automne 2022 où l'armée russe confrontée pour la première fois à finalement ce qui ressemblait à sa défaite, c'est-à-dire l'incapacité de prendre le contrôle du territoire ukrainien, envisage un emploi de l'arme nucléaire. Et c'est à l'époque William Burns, le directeur de la CIA, qui va dire à Poutine que un tel emploi serait... emporterait des conséquences tout à fait dramatiques et en le menaçant de représailles sur les forces russes en Ukraine dans l'hypothèse d'un tel emploi, même très limité. Mais c'est vous dire que la présence de l'arme nucléaire n'est pas anodine. Et inversement, on souligne souvent la dissuasion russe à l'égard de l'Occident. On peut dire aussi que la dissuasion de l'OTAN a fonctionné vis-à-vis de la Russie dans la mesure où cette aide qui s'est mise en place finalement à une très grande échelle, y compris avec l'installation d'infrastructures sur le territoire polonais permettant des livraisons d'armes en quantité en Ukraine. On a du mal à imaginer que les États-Unis, par exemple, aient vécu sereinement l'installation d'une base logistique en territoire iranien pour soutenir l'insurrection irakienne. Donc il y a quand même pas mal de choses là-dessus qui montrent que la dissuasion a fonctionné dans les deux sens et a permis de garder le conflit dans les frontières de l'Ukraine malgré l'engagement croissant des Européens, des Américains au soutien de tout ça. Mais fondamentalement, on se trouve devant une Europe qui était mal préparée à la fois militairement, intellectuellement à un conflit de cette ampleur, qui a géré tant bien que mal avec les États-Unis le risque d'escalade, plutôt bien puisqu'il n'y a pas eu escalade, mais qui s'est trouvée en quelque sorte avec un réveil très brutal du retour de la guerre sur le continent et de l'hypothèse d'une guerre qui pourrait dépasser les frontières de l'Ukraine. Ce qui m'amène à évoquer la question du risque de guerre en Europe peut-être plus rapidement, mais simplement pour dire d'emblée, parce que je connais cette critique, qu'il ne s'agit pas d'imaginer des chars russes se défilant sur les Champs-Élysées. La Russie est bien incapable de conquérir l'Ukraine, donc serait probablement bien incapable d'aller jusqu'aux frontières françaises, allemandes ou même polonaises. Mais ce qui me paraît être une hypothèse à laquelle on doit être attentif, c'est au fond, d'abord, une escalade ukrainienne dans une situation où la Russie estimerait, ce qui ressemble quand même un petit peu à ça aujourd'hui, qu'elle a perdu, mais qu'il y a une sorte de volonté de transformer la rhétorique d'un conflit qui serait entre l'OTAN et la Russie en réalité d'un conflit qui serait entre l'OTAN et la Russie, car après tout, quitte à perdre, mieux vaut perdre face à un adversaire réputé supérieur. Et donc, il y a cette hypothèse-là. Deuxièmement, et largement en fonction de la sortie de la guerre ukrainienne, d'imaginer quels pourraient être les tests menés par un Vladimir Poutine emporté dans la logique guerrière qui est la sienne, bien incapable de gérer la démobilisation de 600 000 soldats à la fois aguerris et traumatisés par le conflit en Ukraine, et décidant de pousser en quelque sorte soit son avantage, soit son désavantage par un test là-dessus pour mener à bien l'agenda de 2007, c'est-à-dire la dissolution de l'OTAN dans un contexte, et j'y viens tout de suite, où l'Amérique n'est plus aussi fiable comme allié, en venant en quelque sorte bousculer ou tester la crédibilité de l'Alliance Atlantique, la crédibilité de l'Union européenne dans un des espaces fragiles, la région Baltique évidemment, la région le Grand Nord ou la mer Noire, qui sont autant de régions où ce pourrait être tentant, non pas de, encore une fois, se lancer dans une grande invasion du continent européen, mais de venir démontrer que l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord ne vaut pas grand-chose, puisque les États-Unis resteraient, par hypothèse, les bras croisés devant une attaque de la Lituanie, de la Lettonie ou de l'Estonie, Narva, Zilupé ou Suvalki, pour prendre les trois régions géographiques les plus souvent citées. Donc, on est dans cette hypothèse-là, et donc ce serait en quelque sorte une erreur de calcul dont je parle. C'est pas un projet, c'est un projet qui viserait à en quelque sorte démontrer la faiblesse de l'Union européenne, le dysfonctionnement de l'OTAN, en venant mener cet exercice. Donc tout ça vient évidemment être effroyablement compliqué par l'attitude des États-Unis. Donc j'en viens à la présidence de Donald Trump et ce qu'elle emporte pour ce que Raymond Aron appelait la fin de la République impériale. Alors, je vous invite à relire ce texte de 1973 qui a une particularité, c'est qu'il a été réédité aux États-Unis, mais pas en France. Donc, il est difficile à trouver. Je regrette que ce ne soit pas le cas, parce que c'est un texte particulièrement intéressant pour la période qui nous occupe, où Aron plantait, en quelque sorte, le décor du monde présent, moins peut-être la personnalité de Donald Trump qu'il n'avait pas envisagé. C'est-à-dire une crise commerciale et monétaire entre États-Unis ou avec les États-Unis, et c'est le moment du retrait de la convertibilité du dollar, une crise des alliances après une défaite militaire qui était à l'époque le Vietnam, et avec l'idée que les Américains se retirerait, et une demande vis-à-vis des Européens de prendre davantage de responsabilités. Et finalement, il décrit quelque chose qui ressemble assez au débat de politique étrangère américain depuis la fin de la guerre en Irak, avec toute une série d'interrogations là-dessus. Et j'ajoute l'idée d'un basculement d'alliance qu'il lie à travers, d'une part la détente et d'autre part le rapprochement avec la Chine communiste. Donc on est vraiment dans quelque chose de très intéressant à relire aujourd'hui, au moment où Donald Trump s'apprête à rencontrer Xi Jinping et où il a multiplié les signes d'amitié à l'égard de Vladimir Poutine. Donc on est dans quelque chose, c'est pour ça que cette image de la République impériale est... J'avais donné une conférence sur ce sujet que Jean-Claude Casanova a fait l'amitié de publier dans commentaire, donc qui passait en revue justement cette hypothèse. Donc on a un Trump qui, plus encore depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier 2025, marque pour moi une rupture assez profonde avec la politique étrangère des États-Unis. Et avec donc la fin de cette République impériale qui aurait commencé en 1941 et serait en voie d'effacement dans cette logique. C'est-à-dire c'est la fin d'une forme d'impérialisme américain, mais assez bénévolent, qui s'était construit autour d'une politique étrangère et de sécurité américaine pas toujours efficace ou pacifique, mais fondée sur des principes démocratiques, n'en sont quelques sévères entorses, des alliances stables, notamment en Europe, et la volonté de préserver et de se porter en garantie des grands équilibres du monde et d'un ordre international fondé sur le droit. Ce monde, cette Pax Americana, convenait parfaitement aux Européens, aussi bien pendant les 40 années de la guerre froide que pendant les 30 années de l'après-guerre froide. Ça permettait à l'Europe de se reconstruire puis de prospérer sous un parapluie américain, et d'adopter, en particulier pendant l'après-guerre froide, une attitude dite de passager clandestin, en laissant le soin à Washington de porter l'essentiel du fardeau des affaires de sécurité du monde et de la sécurité européenne et internationale, en se contentant de jouer, avec plus ou moins de bonne volonté, les supplétifs de l'ordre américain, ou parfois d'en critiquer les excès, sans avoir à proposer de solutions alternatives. Washington a par ailleurs activement, pendant toute cette période, soutenu la construction européenne et le projet européen, malgré les tensions commerciales, et a joué depuis 1949 et la fondation de l'Alliance Atlantique le rôle de pierre angulaire de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, notamment à travers une garantie nucléaire réputée d'une solidité à toute épreuve. L'apparition d'une Amérique qui non seulement insiste très légitimement sur un meilleur partage du fardeau, mais souhaite désormais, et c'est les mots de l'administration Trump, un transfert du fardeau et qui prend activement ses distances à l'égard avec la sécurité européenne, impose aux Européens une triple rupture. D'abord une rupture qu'on pourrait estimer temporaire, mais quand même assez fondamentale, autour du dossier ukrainien, avec un désaccord profond et croissant sur ce dossier. Des États-Unis qui semblent se désintéresser de ce qui est pour eux, après tout, un conflit périphérique, voire qui formule une forme de sympathie pour les positions de la Russie dans ce conflit, estimant que, au fond, l'abandon de 20% du territoire ukrainien serait un moindre mal et un deal acceptable. Et une Europe qui, de plus en plus, reconnaît que ce qui se joue en Ukraine est existentiel non seulement pour l'Ukraine, mais pour elle-même. Et donc là, on voit quelque chose qui relève d'une rupture assez fondamentale et qui, dans l'histoire de l'Alliance Atlantique, est quelque chose d'assez rare. C'est-à-dire qu'il y a eu des grands différends transatlantiques au moment de Suez, de l'Irak, mais c'était sur des sujets périphériques. Le général de Gaulle, en 1966, s'inquiète de ce qui se passe en Indochine. Il n'est pas en train de contester le rôle de l'Amérique dans la défense du continent européen ou l'existence même de l'Alliance Atlantique. Il est, au contraire, dans les crises de Berlin, la crise de Cuba, d'une loyauté parfaite à cette alliance. Donc on voit bien que là, il se joue quelque chose ou il se noue quelque chose d'assez fondamental puisqu'on a un désaccord sur une question de sécurité européenne qui est en place. Deuxièmement, on a un retrait américain qui maintenant n'est plus théorique, mais bien engagé. Les États-Unis ont retiré des moyens considérable du territoire européen. On se souvient que la présence américaine pendant la guerre froide était à plus de 330 000 hommes. On est aujourd'hui autour de 80 000 avec des annonces régulières de fermeture ou de rapatriement d'unités du territoire européen, y compris d'unités remplissant des fonctions sensibles. Et là, j'y reviendrai quand je parlerai de l'OTAN, mais il y a aussi des effets de seuil. La présence américaine en Europe, les 80 000 hommes qui sont là, il ne faut jamais oublier qu'une partie non négligeable ont soit des fonctions exclusivement américaines, par exemple l'hôpital militaire de Ramstein, qui implique plus d'un millier de personnels américains, mais qui est là pour s'occuper de blessés américains venant du Moyen-Orient, et c'est largement. Évidemment, la présence dans les structures militaires, les commandements militaires de l'OTAN ou dans les états-majors américains présents en Europe. Donc, on a les forces combattantes sont déjà très, très fortement réduites. Et là, on voit qu'il y a une accélération de ce retrait des forces conventionnelles qui vient, là aussi, interroger les Européens, surtout quand ces retraits sont rapides et non coordonnées, comme on l'a vu la semaine passée avec l'annonce d'un retrait d'une unité du territoire allemand pour sanctionner en quelque sorte un discours jugé défavorable du chancelier Merz sur le conflit en Iran. S'ajoute à ça évidemment la multiplication des tensions transatlantiques, tensions commerciales, tensions autour des enjeux géopolitiques du conflit iranien et évidemment les menaces d'annexion du Groenland, territoire souverain d'un pays membre de l'OTAN, menaces qui sont prises extrêmement au sérieux. Je crois qu'il faut sortir de l'idée que les discours de Donald Trump relèvent de la clownerie ou quoi que ce soit. Ce sont des discours qui sont formulés à sa manière, mais construit autour d'ambitions réelles, d'ambitions de contrôle de l'hémisphère occidental, d'une forme de néo-impérialisme dans l'hémisphère occidental, dont on a vu une forme avec le Venezuela, dont on a vu une nouvelle forme avec les menaces sur Cuba et avec les menaces sur le Groenland, encore une fois, pays membre d'un territoire d'un pays membre de l'OTAN, ce qui est sans précédent dans l'histoire de l'Alliance Atlantique. Donc on se trouve dans un scénario où l'Amérique n'est pas seulement isolationniste, elle devient presque hostile à travers un certain nombre de climats. Ce qui amène, troisième point de ma présentation aujourd'hui, à m'interroger sur ce à quoi pourrait ressembler l'OTAN sans l'Amérique. Penser l'OTAN sans l'Amérique, c'est comme une sorte de contradiction dans les termes, tant l'Alliance Atlantique s'est construite depuis 1949 autour de deux piliers, que sont le maintien d'un lien fort entre l'Europe et les États-Unis et la présence militaire américaine en Europe. C'est Robert Schuman qui déclarait ainsi au moment de la signature du traité de Washington en 1949 « Aujourd'hui, nous obtenons ce que nous avons vainement espéré entre les deux guerres. Les États-Unis reconnaissent qu'il n'y a ni paix ni sécurité pour l'Amérique si l'Europe est en danger. » C'est cette affirmation qui est aujourd'hui questionnée, me semble-t-il. Alors, cette posture américaine rencontre évidemment une tradition ancienne dans l'histoire de la politique étrangère des États-Unis. Et l'isolationnisme n'est pas propre ni à Donald Trump et a continué à exister tout au long de la guerre froide. Au moment même de la signature du traité de l'OTAN, un certain nombre de formulations du traité de l'OTAN visaient notamment la non-automaticité de l'assistance militaire, visaient à venir en quelque sorte donner des gages à la frange isolationniste du Congrès sur le fait que les États-Unis ne seraient pas entraînés dans un conflit européen automatiquement. Ce que, évidemment, toute la mécanique suivante a cherché à obtenir et ce que les Européens ont cherché avec succès à obtenir. Mais, donc, cette hypothèse d'un retrait des États-Unis était restée théorique. Parce que l'Alliance Atlantique était au cœur de la République impériale, telle que je la décrivais tout à l'heure. Et donc, au fond, tout ceci a été profondément bousculé par l'élection puis la réélection de Donald Trump, et ce qui nous oblige aujourd'hui à nous livrer à l'expérience de pensée, pourrait-on dire, d'une OTAN sans l'Amérique. C'est important, parce que la problématique des alliances est testée dans cette première année de la nouvelle administration de Trump, qu'on connaît la conception hétérodoxe, transactionnelle des alliances du président américain. Et on voit bien qu'on est dans un moment où on doit penser en quelque sorte une dystopie et en essayant de garder quelques principes pour guider notre réflexion. En premier lieu, l'hypothèse d'une forme de retrait des États-Unis comme n'étant pas forcément la plus probable, mais désormais plus invraisemblable. Donc on est dans quelque chose qui est dans le champ du possible. Deuxièmement, le fait que ce retrait n'est pas souhaitable et ni souhaité par la grande majorité des Européens et par la totalité des gouvernements européens. Parce que, et même pour les plus ardents défenseurs d'une Europe puissance, dans le contexte stratégique qui est celui d'aujourd'hui, personne ne peut souhaiter que cette alliance se distende à un point tel et surtout de manière aussi peu coordonnée. Enfin, il est évidemment indispensable d'examiner cette hypothèse pour se préparer à minima à une forte réduction de l'engagement américain. Je peux rappeler en quelques mots le rôle central des États-Unis dans l'OTAN. C'est une alliance de 32 États, une organisation régie par la règle du consensus qui donne une voix égale à tous ses membres. Mais certains, comme le rappellerait Rouel, sont plus égaux que d'autres dans cette ferme des animaux qu'est l'OTAN. Les États-Unis ont une influence considérable dans l'organisation. Comme le disait une ancienne collègue américaine de l'OTAN, parfois mettent leur pouce sur la balance pour obtenir des décisions, pouces qui pèsent sans doute plus que ceux de beaucoup de membres. La grande majorité des alliés européens, pendant 80 ans, se sont naturellement alignés sur les positions proposées par les États-Unis, à qui était reconnue une sorte de leadership naturel dans ce cadre, la France apparaissant dans ce contexte plutôt comme une exception, en ayant à plusieurs reprises contesté ce leadership, exception partagée par quelques autres pays, la Turquie notamment, mais généralement sur des sujets jugés prioritaires, chaque pays de l'OTAN pouvant jouer de la règle du consensus pour défendre ses intérêts. Sur la structure elle-même, si le secrétaire général de l'OTAN n'a par tradition jamais été américain, depuis la création de l'Alliance en 1949, en revanche, depuis 1952, le poste de commandant suprême allié pour l'Europe, de SACUR, est tenu par un Américain. C'est le général Eisenhower qui a créé ce poste. Et depuis, ce sont des généraux américains qui ont tous succédé à Eisenhower. Dans le même temps, la présence de forces conventionnelles américaines en Europe a été très importante historiquement. Je le disais, plus de 300 000 soldats américains en Europe pendant la guerre froide, moins de 80 000 aujourd'hui. Mais un élément toujours important de la posture conventionnelle de l'Alliance, par les moyens uniques, j'y reviendrai, que les Américains apportent à cette Alliance, notamment des moyens conventionnels dans le champ du renseignement qui sont très difficilement remplaçables, j'y reviendrai. Évidemment, donc un poids central dans le domaine nucléaire avec ce qu'on a appelé la dissuasion élargie américaine qui depuis les premières années est un élément essentiel de la posture de l'OTAN. On peut enfin citer le poids des États-Unis dans les capacités stratégiques que j'évoquais à l'instant, espace, renseignement, ravitaillement en vol, transport stratégique et les moyens de commandement, tous ces moyens étant assez uniques. Et donc, même si seulement une fraction du budget du Pentagone est consacrée directement à la sécurité de la zone euro-atlantique, les États-Unis ont longtemps compté pour 70% des dépenses militaires des alliés. Créant ce débat sur le partage du fardeau, alors on peut dire un peu injuste, parce qu'évidemment, dans les dépenses américaines, tout n'était pas consacré à la défense de l'Europe, mais un déséquilibre considérable, qui est seulement en voie de correction. Donc, maintenant, la question se pose de comment ce retrait pourrait se matérialiser. Alors, au-delà des idées de Donald Trump, qui sont anciennes, il avait déjà exprimé un scepticisme à l'égard de l'OTAN en 1987 dans une interview au magazine Playboy, où il expliquait sa vision du monde en notant notamment, et c'est très intéressant parce qu'on y retrouve les fondamentaux de d'aujourd'hui. Guerre commerciale, Japon et Europe font du tort aux États-Unis. La Russie est un partenaire majeur avec qui Trump veut faire des deals nucléaires l'OTAN est un mauvais deal pour les États-Unis. Au fond, sa vision du monde n'a guère changé depuis cette époque. On voit bien que par ailleurs, l'Europe est passée au second plan, et plus encore depuis le conflit au Moyen-Orient, où on pouvait dire qu'on était passé d'une priorité stratégique seconde par rapport à l'Indo-Pacifique, depuis déjà Obama, qui avait annoncé ce pivot vers l'Asie, à quelque chose d'encore beaucoup plus net. Mais là, maintenant, on a du mal à savoir si on est la priorité numéro 3, 4 ou 5 d'une Amérique qui a des ambitions militaires dans l'hémisphère occidental, doit contrebalancer la Chine en Indo-Pacifique, mène une guerre désormais majeure au Moyen-Orient. Et donc, on le voit dans les livraisons d'armes où les Européens passent après tout le monde, si j'ose dire, après l'armée américaine, ce qui est après tout légitime, mais aussi après les clients du Moyen-Orient et ainsi de suite. Donc, on est dans un vrai changement de posture qui, à mon avis, dépasse le thème MAGA de Trump et de ses supporters là-dessus. Donc, on est dans un schéma où le retrait formel reste improbable. D'abord parce qu'il y a des obstacles juridiques. Le Congrès, c'était de manière amusante, le sénateur Rubio qui avait fait voter cette législation à demande d'une majorité des deux tiers pour sortir de l'OTAN. On verra si le même Rubio un adepte du retournement de veston expliquera que tout ça n'est pas l'hypothèse qu'il avait imaginée. Mais en réalité, il n'y a pas besoin de sortir du traité pour le dévitaliser. Si un président des États-Unis qui refuserait de jouer le rôle traditionnellement dévolu aux États-Unis aurait des effets sensiblement comparables pour l'organisation. Des think tanks proches de l'administration de Trump, on a retrouvé pas mal de membres dans les évoquaient une OTAN dormante pendant la campagne électorale. Donc on voit bien toute une série d'idées qui iraient dans ce sens-là, et on voit que Trump, après un premier moment au sommet de La Haye l'an dernier, il y a 9 mois, où il obtient ce qu'il estime être une grande victoire, c'est-à-dire un engagement des Européens à réinvestir dans la défense avec 3,5% du PIB consacré aux dépenses de défense, plus 1,5% consacré aux dépenses d'infrastructures et de sécurité pertinentes, lui permettant d'annoncer qu'il a obtenu que les Européens dépensent désormais 5% de leur PIB pour leur défense, donc une multiplication par en général plus de 3 de l'effort de défense des pays européens par rapport à la moyenne des dernières années. On a imaginé à l'époque, et c'était le pari de Marc Rutteux, du nouveau secrétaire général de l'OTAN, que fort de cette victoire symbolique, le dossier de l'OTAN serait un petit peu comme ça avait été le cas pendant son premier mandat que j'avais vécu à l'OTAN. Je me souviens du moment où Trump a dit « l'OTAN n'est plus obsolète ». Ce qui est amusant, quoi, l'idée de quelque chose qui est obsolète et cesse de l'être, on a du mal à l'imaginer d'une technologie. Mais d'une certaine manière, il avait, à l'époque, puisqu'il avait dit que l'OTAN était obsolète pendant la campagne électorale de 2016, il avait dit que ça avait cessé de l'être. Et avec son talent de communicant, il avait réussi à retourner, finalement, sa propre affirmation. Donc là, on avait aussi l'espoir que ce sommet de la Haye réussi mettrait en quelque sorte les choses sur de nouveaux, une nouvelle trajectoire apaisée. La, l'affaire du Groenland, puis la crise iranienne viennent de nouveau tout bousculer, puisqu'on a un Trump extrêmement frustré avec les alliés européens, qu'il assimile à l'OTAN et donc qui revient sur ces thématiques-là. Et le sommet à venir au mois de juillet prochain à Ankara va être, au lieu d'être un sommet de mise en œuvre où on va parler d'affaires industrielles, va devenir un sommet fort compliqué à gérer, et pour le secrétaire général et pour les alliés européens, d'autant plus qu'évidemment, vu d'Ankara, l'affaire moyen-orientale est difficile à laisser de côté. Alors, est-ce que tout ça est une OTAN sur les États-Unis ? Est-ce que c'est souhaitable ou possible ? Je disais qu'un retrait formel était improbable. Je dirais également que formellement, rien n'interdit de fonctionner sans les États-Unis. Il y a eu le retrait français des structures militaires intégrées. Il y a des formes de... Voilà, on peut imaginer toutes sortes de méthodes pour que les États-Unis prennent un pas de côté vis-à-vis de l'Alliance, que ce soit en termes de présence militaire, d'investissement dans les structures, voire du fait de payer leur quote-part qui est déjà minoré dans le financement de l'Alliance. L'OTAN demeurerait, je dirais, au-delà de l'Union européenne, puisqu'il y a 8 pays de l'OTAN qui ne sont pas membres de l'Union européenne et qui sont évidemment des alliés importants si on réfléchit à la défense du continent, à commencer par le Royaume-Uni, la Turquie, mais aussi la Norvège, un certain nombre de pays des Balkans orientaux. Donc on est dans quelque chose où on pourrait imaginer de conserver l'OTAN, de conserver l'expertise et l'expérience de l'OTAN, notamment 79 ans ou 77 ans pardon de planification de défense, de programmation, etc., d'habitude, etc., pour continuer à fonctionner en mettant en œuvre des moyens, etc. Ce qui peut amener à plaider pour un maintien de l'Alliance, même en cas de retrait partiel ou total des États-Unis. Pourtant, le rôle des États-Unis est critique, comme je le disais, à travers un certain nombre de forces conventionnelles en temps de paix, la capacité à renforcer le continent européen en temps de crise et les moyens militaires critiques qui sont là, avec évidemment également l'horizon nucléaire. Donc en résumant, on peut affirmer que l'OTAN, au prix d'une adaptation à marche forcée, pour armer les postes détenus par des soldats américains, compenser le retrait de capacités critiques américaines, pourrait fonctionner en mode dégradé, mais qu'il s'agirait sans doute de la solution militairement la plus efficace, du moins par rapport à des alternatives de coalition ad hoc ou de recours aux moyens de l'Union européenne qui sont notoirement sous-développés en matière de commandement, de structure de commandement, par exemple. Donc ce serait une OTAN qui deviendrait une sorte de boîte à outils pour commander et planifier des opérations complexes au profit des Européens et des Canadiens restant dans l'Alliance, avec des Américains se déplaçant là-dessus. Donc finalement, on doit se préparer, dans toutes les hypothèses, j'ai envie de dire, à défendre l'Europe avec moins d'Amérique. Hypothèses qui toutes dessinent ce que on pourrait appeler une OTAN 3.0, qui ne ressemble pas vraiment à l'OTAN 1.0 de la guerre froide ou à l'OTAN 2.0 de l'après-guerre froide. Une OTAN moins américaine, qui est désormais, et c'est là que les Européens doivent ouvrir les yeux, l'objectif officiel de l'administration américaine. Et ça, c'est un exercice, notamment du sous-secrétaire d'État à la guerre, M. Elbridge Colby, qui dit de manière absolument claire et nette que c'est là l'objectif des États-Unis. Récemment encore, l'ambassadeur américain auprès de l'OTAN a parlé d'OTAN 3.0, une alliance moins américaine dans laquelle le partage du fardeau aurait glissé. Donc là, on se trouve devant un certain nombre de scénarios que je détaille très rapidement. Un premier scénario, celui d'une transition organisée, ce qui est évidemment ce qu'on peut souhaiter, et de se dire, voilà, en l'espace de 10 à 15 ans, on va organiser cette transition. C'est une évolution étalée dans le temps et un transfert du fardeau où les États-Unis resteraient engagés, mais à un niveau bien moindre. Deuxième scénario, cette même transition, mais d'une manière beaucoup plus chaotique. Et là, on est dans quelque chose de plus problématique, où les États-Unis se retirent. C'est ce qui semble se dessiner aujourd'hui, avec des décisions unilatérales, et finalement, un résultat qui peut être comparable au scénario précédent, mais avec ouvrant quand même une période de risque importante, pendant laquelle la solidité de l'Alliance pourrait être testée dans les scénarios que j'évoquais tout à l'heure. Il devient en effet tentant pour les adversaires de l'OTAN, aussi en tête, de tester la solidarité de l'Alliance dans ce contexte. Troisième scénario, et je vais aller rapidement, beaucoup plus radical, une administration frustrée par l'absence de progrès, qui, quelle que soit la réalité de ceci, décide de réduire les engagements américains et procède à un retrait quasi complet de tout son dispositif européen et invite les Européens, en quelque sorte, à moduler des garanties bilatérales et une sorte de course des Européens à des garanties américaines qui ne seraient plus dans le cadre de l'OTAN. Enfin, des États-Unis, hypothèse maximaliste, des États-Unis devenus hostiles, c'est finalement le scénario du Groenland, qui viendrait avec une rupture historique de la famille occidentale telle qu'elle s'est construite depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc on est bien dans l'espoir de la première hypothèse, plus vraisemblablement dans la deuxième ou la troisième, et j'espère que la quatrième reste un peu théorique, même si, on le voit, il y a un certain nombre de risques et de discours qui peuvent ne nous permettent pas de l'exclure. Donc on est amené à penser l'OTAN sans l'Amérique, qui permet de penser aussi l'OTAN avec moins d'Amérique, dans un environnement stratégique en pleine mutation. En conclusion, je voudrais dire à quel point tout ceci, et je termine sur la nécessité de défendre l'Europe de demain, en disant que c'est à la fois indispensable, mais également possible, et en notant quelques points. D'une part, un défi capacitaire, ce que le militaire dirait capacitaire, avec la mise en œuvre de priorités qui doivent être simultanées de remontée en puissance de notre effort militaire, passant premièrement par une assistance maintenue à l'Ukraine, parce que l'Ukraine fait partie de cette défense du continent européen demain. Deuxièmement, la nécessité de retrouver de la masse et de la réactivité, encore une fois en jargon militaire, c'est-à-dire une capacité, en quelque sorte, pour utiliser une image, donner aux Européens le rôle de fournir la cavalerie, à l'image des westerns, c'est-à-dire d'imaginer que c'est bien les Européens qui vont répondre en premier aux crises. Et que s'il y a des troupes, par hypothèse russe, qui se massent le long de la frontière d'un État balte, ce n'est pas la 101e division aéroportée ou la 90e division aéroportée américaine qui se déploie, mais des forces françaises, britanniques, allemandes ou suédoises qui viennent se mettre en place pour marquer la résolution de l'OTAN. Enfin, troisièmement, investir dans des capacités critiques. Toutes ces technologies qui nous manquent, que nous maîtrisons technologiquement, mais que nous n'avons pas en nombre suffisant pour répondre à tout ça. Et enfin, adapter notre outil militaire à la révolution des affaires militaires en cours. Donc il faut faire tout ça à la fois, ce qui est très exigeant au plan budgétaire et de planification, mais qui me semble possible. Ce qui amène à réfléchir aussi à ce que pourrait être une manière européenne de penser la défense du continent, c'est-à-dire pas forcément avec des moyens américains et à l'américaine, si j'ose dire. On pourrait appeler ça une European way of war, une manière européenne de penser la guerre, qui soit assez différente des moyens américains pour ne pas être obligé de remplacer pièce pour pièce tous les moyens américains qui seraient retirés du continent. Avec quel objectif ? Celui d'être capable de produire un effet décisif en cas de crise, de dissuader pour prévenir la guerre en montrant que les Européens sont capables d'agir ou de réagir à une crise, et avec évidemment là-dedans une question très complexe, de nouveau pour citer Aron, qui ouvre un grand débat sur nucléaire, dans la mesure où on voit tout ça. Je pense que je pourrais y revenir tout à l'heure. Tout ceci me paraît possible. Les conditions du succès sont celles d'un effort soutenu dans la durée. C'est de l'ordre d'une décennie. Il faut compenser les décennies de sous-investissement. Je me suis amusé à faire le calcul dans le seul cas de l'Allemagne. Si l'Allemagne avait été à 2% de son PIB pendant les trois dernières décennies, elle aurait dépensé 400 milliards d'euros supplémentaires pour sa défense dans les trois dernières décennies. C'est vous dire la marche pour revenir à une Bundeswehr qui soit capable de faire les choses. C'est possible, mais ça prend quelques années et même un petit peu plus. Deuxièmement, une ambition technologique, couvrir l'ensemble du spectre des technologies critiques pour la défense d'aujourd'hui et de demain. Troisièmement, une ambition industrielle, répondre aux besoins européens, même en temps de crise, De ce point de vue-là, l'industrie et la capacité industrielle est devenue une capacité militaire et un champ de conflictualité au même titre que d'autres. Il faut évidemment, et c'est sans doute le plus compliqué, une unité d'approche et une bonne coordination européenne. Et là, l'Union européenne peut jouer un rôle tout à fait important. Une bonne coordination entre Union européenne et OTAN pour que chacune des deux organisations puisse faire ça. Donc, pour terminer, et en paraphrasant un autre président américain, je dirais « yes, we can », au sens « nous le pouvons », disait Obama pendant sa campagne. Je crois que les Européens peuvent parfaitement dissuader la Russie de s'en prendre au continent européen, envoyer les bons messages et défendre le continent européen face aux différentes menaces sécuritaires qui peuvent peser sur lui. Il s'agit de le faire pour créer une OTAN plus européenne, une Europe plus forte. Et dans ce cas-là, finalement, ce qui restera de l'Amérique en Europe et dans la sécurité européenne ne pourra être qu'une bonne nouvelle dans la mesure où la présence américaine, si l'alliance transatlantique demeure ce que je souhaite, sera une alliance qui viendra renforcer une Europe forte et à défaut, si ces États-Unis s'effaçaient, nous permettrait de ne pas être dans un état de panique ou de sidération stratégique. Monsieur le Président, je vous remercie de votre attention.
Merci, cher Camille.